Bénissons notre Seigneur Jésus
qui avait pu dire, et c'est une réalité pour nous encore aujourd'hui, il avait pu dire, « Je suis la résurrection et la vie, et la vie continue en lui. » Quand bien même il nous arriverait tout un tas de déboires, quand bien même on penserait que c'en est fini de nous, en Christ, rien n'est perdu. Il est la vie, il est la résurrection et la vie. Et la vie continue en lui, que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il nous accorde chaque jour et qu'il nous donne de produire ensemble. Ce matin, je vais reprendre notre série sur l'Église. Nous avons commencé début juillet une série sur l'Église. Elle a été interrompue un peu après parce que nous avons eu des prédicateurs de passage et puis nous sommes absentés une semaine en Tunisie. Mais nous allons reprendre ce matin. Je rappelle juste que lors du premier volet de cette série, nous avons vu que l'Église, c'est le projet de Dieu, c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il bâtit son Église et il nous associe à ce travail. Dans un deuxième point, nous avons vu aussi que Jésus aime l'Église et que rien ne pourra la séparer de son amour qui a été manifesté en Jésus. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Il aime l'Église. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un point important, crucial, fondamental au sujet de l'Église, que vous connaissez, mais c'est bien de revoir ces choses. L'Église est un mouvement mondial. On la retrouve partout. L'Église est un mouvement mondial, mais il n'y a qu'un seul peuple. Il y a beaucoup de peuples qui existent dans le monde. L'Église est répandue dans tout le monde, mais il n'y a qu'un seul peuple. Le peuple de Dieu répandu dans tout le monde. Amen. On va lire quelques textes, notamment dans Éphésiens, mais partout où vous allez dans le monde, ou je dirais, allez, 99% où vous allez dans le monde, que vous alliez à Paris ou à Toulouse, que vous alliez à Berlin ou à Varsovie, que vous alliez à Moscou ou à Tunis, que vous alliez à New York ou à Mexico ou à Rio, et même dans les endroits les plus insolites et inattendus, il y a quelque chose qu'on retrouve partout. Vous savez quoi ? Coca-Cola. Eh oui, Coca-Cola, on retrouve partout. Cette entreprise, j'allais dire, qui a un peu plus de 130 ans, 1886. En 130 ans à peu près, Coca-Cola a envahi le monde. L'Église est toujours là. L'Église fait beaucoup mieux. Les entreprises, les multinationales, ça va, ça vient, ça disparaîtra. Un jour, Coca-Cola disparaîtra, hein. Ça disparaîtra, mais l'Église sera toujours là. Des grandes entreprises qui ont fait fortune ont disparu, mais l'Église est toujours là. Des empires ont disparu, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais l'Église est toujours là. L'Église est répandue, elle aussi, dans le monde entier, même dans les endroits les plus insolites. Parfois d'une manière cachée à cause de la persécution. Mais néanmoins, l'Église est là. L'Église est là. Lorsque nous étions en Tunisie, je ne savais pas, mais j'ai fait la connaissance d'un pasteur. Ça fait plus de 20 ans qu'il s'est installé en Libye, il vient du Burkina Faso. Il a traversé toute l'Afrique du Burkina Faso jusqu'en Libye et il s'est installé et il a fondé une église là. Nous avons des frères et sœurs en Libye. On en a rencontré un lorsque nous étions en Tunisie, en Mauritanie, dans des pays parfois fermés. L'Église est là, en France, bien sûr, en Russie, en Amérique latine, bien sûr, avec toutes ces églises fort nombreuses, en Amérique du Nord. Dans tous les continents, l'Église est là. En Corée du Nord, l'Église est là. Alléluia. On la retrouve partout, l'Église. Et elle dure. Rien ne pourra arrêter sa marche parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, on va lire une lecture avant d'aller plus loin dans Éphésiens chapitre 2. Et en suivant, on ira dans la première épître de Pierre. Éphésiens chapitre 2, verset 11. On va lire du verset 11 jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux seuls un seul homme, nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. On va revenir tout à l'heure sur ce texte, mais j'aimerais aussi lire avec vous dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2. On peut lire à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans ces deux textes, il y a certaines choses qui se ressemblent, certaines expressions qui se ressemblent, on va en parler. Ici, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Au verset 8, il dit « vous au contraire ». Vous au contraire. Ce « au contraire » nous ramène à tout ce qui était écrit avant que nous avons lu à partir du verset 4 que nous avons lu ensemble. C'est vrai que nous sommes ces pierres qui ont été choisies par Dieu. Au verset 4, nous l'avons lu, rejetées par les hommes. Quand on construit, on se choisit des pierres. Cette pierre-là, je ne la veux pas, celle-là, je la veux bien. On se choisit les meilleures pierres et le monde nous a rejetés, mais nous avons été choisis et précieuses devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Mais la première pierre qui a été rejetée, c'est la pierre angulaire indispensable à la construction. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Rejeté, il a été rejeté par ceux qui bâtissaient. Mais elle est devenue la principale de l'angle. Et par rapport à cette pierre, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et l'Église s'est répandue dans le monde entier à partir de cette première pierre qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. L'Église est répandue dans le monde entier. L'apôtre Pierre rappelle certaines choses. Il dira que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Quand bien même, j'allais dire, nous avons vécu au même endroit, nous sommes nés dans cette ville et nous allons mourir dans cette ville, peut-être certains ne vont jamais bouger de leur ville, de toute leur vie. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, que nous sommes que de passage. Que de passage. Et comme le dira l'apôtre Pierre aussi au premier verset de son épître, il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés. Je veux dire, c'est bien sûr, on pourrait penser à ceux qui, parmi le peuple juif, étaient dispersés dans tout l'Empire romain et dans le monde entier. Mais pas que. Pas que. L'Église, par son identité, sera toujours étrangère à ce monde. L'Église, de par son identité, sera toujours étrangère, j'insiste pour le dire. Nous ne sommes plus de ce monde, a dit Jésus. Nous sommes encore dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes étrangers et dispersés. L'Église est dispersée dans le monde entier. Et prenons bien conscience d'une chose, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'étions pas une nation, mais maintenant, au verset 10, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Prenons bien conscience de notre identité. Cette identité, nous l'avons en Christ et l'Église est formée d'hommes et de femmes qui viennent d'origines totalement différentes. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Comprenez ? L'Église, ça c'est formidable, je trouve ce verset plein d'espérance. Parce que Jean a une vision de ce qui se passe dans la gloire. Et Le Seigneur a racheté des hommes et des femmes de toute tribu. Ça, c'est extraordinaire. Même la plus petite tribu du monde qui existe, Dieu saura en sauver. Alléluia. On peut penser qu'il y a des régions de ce monde, on peut penser qu'il y a des pays dans ce monde qui sont totalement fermés, mais il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Et ces hommes, il a fait d'eux un royaume. Il a formé de ces rachetés un peuple. Et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pour faire ce peuple mondial, il a fallu, bien sûr, un fondement qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire que nous avons vue tout à l'heure. Sans cette pierre angulaire, rien ne tient. Rien ne tient. Il faut cette pierre. Jésus est, comme nous l'avons vu dans le premier message, c'est le roc sur lequel est bâtie l'Église. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons annoncer Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons prêcher Jésus-Christ. L'Église est fondée sur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, sans laquelle l'édifice ne tient pas. Il y a des empires, les empires humains se sont succédés. Encore aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus dominantes que les hommes. Que les autres. Mais elles cesseront aussi. Une nation laisse place à une autre nation qui prend sa première place. Lorsque l'on lit le livre du prophète Daniel, lorsque Nebuchadnezzar a eu cette vision, ce rêve, avec cette statue immense, colossale, avec la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses en airain, et puis les pieds à moitié d'argile et moitié de fer. Cela nous parle bien sûr, et Daniel donnera l'explication à Nebuchadnezzar de ces empires qui se sont succédés à partir de l'empire babylonien. Puis il y a eu les empires Mèdes et Perses, et les empires se sont succédés. Ils disparaissent les uns après les autres. Puis l'on sait que l'empire de l'Antéchrist va aussi s'établir et il étend son empire sur ce monde. Mais tous ces empires humains sont voués à être anéantis. Ils ne résisteront pas. Et dans le livre du prophète Daniel, il y a une pierre sortie d'on ne sait où qui a renversé la statue. Ces royaumes ont disparu. Et cette pierre qui a renversé la statue est devenue et a rempli une montagne, a rempli toute la terre. Alléluia. On sait ce que représente cette pierre. Tout ça pour vous dire que sans la pierre angulaire, sans Jésus-Christ, toute construction est vouée à être anéantie. Mais l'Église, elle, demeure. Alléluia, et elle va encore durer, elle durera. Jésus tient l'Église entre ses mains. Lorsqu'on voit l'histoire de l'Église, elle a traversé des époques difficiles où il y a eu toutes sortes de royaumes contre elle, toutes sortes de nations contre elle. Ces nations n'existent plus, mais l'Église est toujours là. Alléluia, l'Église est toujours là. Donc pour faire ce peuple mondial, il a fallu un fondement qui est le même partout, c'est Jésus-Christ. Il a fallu aussi autre chose. Il a fallu que l'inimitié soit ôtée. Et ça, nous l'avons vu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2, dans notre première lecture. L'inimitié soit ôtée. Dans le contexte, on sait que l'apôtre Paul parle de cette inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Mais Christ, à la croix, a enlevé cette inimitié. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Il a enlevé cette inimitié qui peut exister entre peuples. Il a enlevé cette inimitié qui pouvait exister entre races. Le racisme, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur. Ce n'est pas quelque chose, le racisme, qui était simplement un phénomène de la moitié du XXe siècle avec ces mouvements fascistes, pas uniquement encore aujourd'hui, et bien plus encore aujourd'hui. Il a fallu que Jésus enlève l'inimitié par la croix. L'inimitié entre classes sociales, l'inimitié entre générations. Que Dieu soit béni. C'est vrai que c'est humainement difficile, voire impossible, de faire vivre ensemble des personnes qui ont des points de vue totalement différents, qui ont un arrière-plan totalement différent, un arrière-plan culturel totalement différent. Et ça, c'est une réalité de l'Église encore plus aujourd'hui. Car nous le voyons même pour la France, le monde entier est en France. Le monde entier est en France, n'est-ce pas? Et comme l'Église en France agit en France, elle amène à la fois, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, tous ceux qui sont en France, donc l'Église est le reflet de la société aussi. Nous le voyons même aujourd'hui, au milieu de nous. J'ai été pasteur d'une église, il y a quelques années en arrière, où il y avait 17, pas moins de 17, perso- 17 représentations nationales différentes dans l'église. Il y avait bien sûr des Français, mais pas que. Il y avait 17 nations différentes représentées dans l'Église. Et on peut dire, mais comment l'Église arrive à tenir? Parce que ces gens sont totalement différents. Totalement différents. Il a enlevé l'inimitié par la croix. Alléluia! Il a enlevé l'inimitié par la croix. Comment est-ce possible que parfois même des nations qui se faisaient la guerre arrivent, des gens de ces nations-là arrivent à louer le Seigneur? Parce qu'il a enlevé l'inimitié par la croix. En Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais nous sommes un en Jésus-Christ, que son nom soit glorifié. Il enlève tous les murs, il enlève toutes les séparations, il enlève toutes les peurs de l'autre, les peurs de l'étranger. L'étranger, par définition, c'est ce qui nous est étrange. Et quand on a peur de l'autre, on se dresse un mur, et la communication ne passe plus. La communication ne passe plus. Mais rappelons-nous une chose, frères et sœurs, c'est que Christ est mort non seulement pour chacun d'entre nous, mais il est mort pour l'autre. Et si Christ l'a accueilli, qui suis-je, moi, pour ne pas l'accueillir? Il a enlevé l'inimitié. Sans cette inimitié, il est impossible de vivre la communion fraternelle. Mais Christ est monté sur la croix. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un effort à faire pour conserver l'unité de l'esprit. Il le dira, « Vous efforçant de conserver. » Si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de l'écrire. Mais l'apôtre Paul a bien dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a des opinions différentes. Dans la première église, il y avait des opinions différentes, notamment sur les choix alimentaires. Certains pensaient qu'on pouvait manger de tout, d'autres non, disaient « on ne peut pas manger de ça, on ne peut pas ». Ceux qui étaient d'origine juive, qui étaient venus à la foi en Christ, arrivaient encore avec leur arrière-plan culturel, et religieux aussi. Et ils ne mangeaient pas de tel ou de tel animaux, etc., etc. Et puis ceux qui ne venaient pas de cet arrière-plan-là, eh bien, pensaient qu'on pouvait manger de tout. Aussi, l'apôtre Paul va dire mais que chacun fait comme il a résolu en son propre cœur. Et puis certains pensaient qu'il y avait des jours plus importants que d'autres. Et d'autres disaient non, tous les jours sont égaux. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre n'ont jamais pu travailler ensemble. Hein. Ils n'ont jamais pu servir le Seigneur ensemble. Ça devait être deux tempéraments assez forts, je pense. On le voit dans les évangiles. Hein, Pierre il lui fallait quelqu'un de calme avec lui comme Jean, je pense. Hein. Pour de temps en temps le... Et puis Paul aussi, je pense qu'il avait... un certain caractère aussi. Mais ils se sont donné la main d'association. Et puis Jacques aussi était encore différent. Mais ils se sont donné. Ils ont conservé l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Ils étaient dans un même cœur, dans une même pensée pour la gloire de Christ. Alléluia. Alors pour faire ce peuple mondial, excusez-moi, il a fallu... bien sûr qu'il enlève l'inimitié. Et puis, il nous a donné des valeurs communes. Des valeurs communes. Un peuple, par exemple, si je prends le cas de la France, partage des valeurs communes. Il a des lois qui sont applicables par tous, une constitution, une histoire commune. Et peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas, mais... nous avons aussi certaines valeurs culturelles que nous partageons avec nos concitoyens. Et il en est de la même manière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Ils ont une expression différente, une façon de parler différente, un comportement différent. Et cela se voit, se ressent aussi dans l'expression culturelle. Quand on va dans une église... en France, ou quand on va dans une église en Amérique du Nord, quand on va dans une église au Maghreb, ou quand on va dans une église dans un autre pays en Europe, l'expression culturelle est différente. Mais pour autant, il y a des valeurs communes, parce que rappelons-nous que nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu nous donne des valeurs communes, que nous retrouvons partout où nous allons. Alléluia. Nous retrouvons ces valeurs communes partout où nous allons. Alors, elles sont nombreuses, ces valeurs communes. On pourrait penser, bien sûr, à la fidélité, à la foi, à la sainteté, aux fruits de l'esprit. Ce sont des valeurs que l'on retrouve partout, dans le monde entier. Parce que c'est le même esprit qui agit. J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Alors on va relire ce verset que j'ai cité, à verset 3, à partir du verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, ce sont les valeurs communes que nous partageons. Nous sommes différents les uns des autres. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'Église, parce qu'il y a une diversité dans l'unité en Christ. Mais nous partageons ces mêmes choses. Peut-être mon frère, ma sœur est différent de moi, a peut-être sur certains points des opinions différentes, mais il a le même Seigneur, le même esprit. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps. Malgré la diversité des églises, on voit dans le livre de l'Apocalypse, ces sept églises de l'Apocalypse, elles étaient totalement différentes. Mais c'était l'église de Jésus-Christ. Un seul Seigneur. Le Seigneur était au milieu de cette église. Il n'y avait pas sept seigneurs. Mais il y avait un seul Seigneur au milieu de ces églises. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que toi, tu es celui qui est notre souverain chef. Tu es celui qui est au milieu de toutes tes églises qui sont répandues dans le monde entier et tu agis au sein de ces églises. Il y a un seul esprit. Un seul esprit. Il n'y en a pas 36. Il n'y a qu'un seul esprit, qu'on soit en France, qu'on soit en Chine ou ailleurs. C'est le même esprit qui agit en nous. Alléluia. Nous ne voulons pas faire des clivages là où le Seigneur n'en fait pas. Il y a un seul corps, un seul Seigneur, un seul esprit, une seule espérance. Alléluia. Nous avons la même espérance les uns et les autres. Ça, c'est quelque chose que nous partageons de fort. Et c'est avec ça aussi qu'on s'encourage les uns et les autres. Lorsque quelqu'un passe par la difficulté, la souffrance, par un moment difficile, on va l'encourager en lui rappelant à quelle espérance notre appel s'attache. Alléluia. Une seule espérance, frères et sœurs. Nous allons tous voir le Seigneur un jour. Qu'on soit ici ou ailleurs, nous allons tous voir le Seigneur. Nous allons tous contempler sa gloire lorsque nous serons avec lui. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi qui conduit à la foi, qui conduit au salut, excusez-moi. Une seule foi, un seul baptême. Alors, quand on voit l'église de Corinthe, certains se glorifiaient d'avoir été baptisés par Pierre, d'autres se glorifiaient d'avoir été baptisé par Apollos, d'autres se glorifiaient d'avoir été baptisés par Paul ou autre. Et alors, qui sont ces hommes, hein? L'apôtre Paul le dira, j'ai planté, c'est Apollos qui a arrosé. C'est pas important ça. C'est pas important. Il n'y a qu'un seul baptême, hein? J'ai connu quelqu'un, il est parti en Israël et il s'est refait baptiser dans les eaux du Jourdain, là où on suppose que Jean-Baptiste baptisait. Comme si le baptême qu'il avait eu lieu en France avait à ses yeux moins de valeur. Il n'a pas plus de valeur si on se fait baptiser dans le Jourdain ou qu'on se fait baptiser dans un baptistère tout simple, qu'on se fasse baptiser dans la mer, dans une rivière, ou je ne sais pas trop où encore, là où il y a de l'eau, hein, en tout cas, il faut de l'eau quand même. Alors c'est vrai, je dis ça un peu comme ça en rigolant, là où il y a de l'eau, mais c'est vrai que dans certains pays, pour trouver de l'eau, c'est pas simple. Mais il n'y a qu'un seul baptême, hein. Nous tous qui avons été, l'apôtre Paul dira, baptisés en Jésus-Christ. Voilà, on est baptisés en Jésus-Christ. Hein. Alléluia. Ce qui donne de la valeur au baptême, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ce n'est pas celui qui baptise, ni l'endroit où l'on se fait baptiser, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et s'il n'y a rien dans le cœur, la forme est peut-être bonne, mais il n'y a rien dans le cœur. Lorsque nous étions au début de la Tunisie, je parlais avec un jeune, il avait été baptisé dans son pays, au Congo, et il me demande d'être rebaptisé. Alors, je discute avec lui pour en savoir un petit peu plus. Il me dit, oui, en fait, quand je me suis fait baptiser dans mon pays, c'était parce que notre église donne une aide financière aux jeunes étudiants, mais il faut qu'on soit baptisé. Alors, je me suis fait baptiser pour avoir l'aide financière. Ah, effectivement, ça, c'est pas la bonne raison pour se faire baptiser. Hein. Il me dit, j'étais pas sauvé, c'était juste pour avoir l'argent. Ah. Alors, bien sûr, arrivant en Tunisie, au contact de l'Évangile, là, il s'est converti réellement. Il s'est converti réellement et puis il s'est dit, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi dans mon pays. J'ai fait n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai rebaptisé quelqu'un. Enfin, rebaptisé, je ne pense pas, parce que c'est son baptême, il a fait juste une... Il a pris un bain, quoi. Mais ce n'était pas valable, parce qu'il n'y avait rien dans le cœur. Il n'y avait rien dans le cœur, vous comprenez ? Ce qui donne de la valeur au baptême, c'est ce qui se passe dans le cœur. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul baptême. Qu'un seul baptême. C'est certainement aussi pour ça que l'apôtre Paul à Éphèse a rebaptisé certaines personnes parce qu'ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc il y avait des choses qui n'allaient pas. Bien sûr, ce n'étaient pas des mécréants, ce n'étaient pas des incrédules, mais il y avait quelque chose qui manquait à leur foi. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait jamais rebaptisé ces personnes. Vous comprenez ? Il n'y a qu'un seul baptême, qu'on se trouve n'importe où, il n'y a qu'un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Alors nous partageons des valeurs communes, on pourrait allonger la liste. Certes, il y a des opinions sur certaines choses différentes. Mais sur ces opinions-là, ce n'est pas une raison pour faire des clivages entre nous. Parce que l'essentiel, ce qui est prioritaire, ce qui est fondamental, nous le partageons ensemble. Nous le partageons ensemble. Alléluia. Nous le partageons ensemble. Pour faire ce peuple mondial, il a fallu aussi un ordre. On connaît ces textes. Dans Actes 1, 8, verset 8, on le connaît ce texte. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Jésus parle du Saint-Esprit, bien sûr. Et vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, en la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand Jésus dit ça, devant lui, à ce moment-là, il faut bien comprendre le contexte, il n'y a que des Juifs qui ont cru en lui. Alors, quand Jésus dirait « Vous serez mes témoins à Jérusalem », pas de problème. En Judée, pas de problème non plus, c'était un peu le fief aussi. Hein. Après, il dit « En Samarie ». Ah, là, ça commence à coincer. Hein. « En Samarie, vous serez mes témoins en Samarie ». C'est ce que dit Jésus. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, on connaît les inimitiés qu'il pouvait y avoir entre Juifs et Samaritains et puis aux extrémités de la terre. Dans les extrémités de la terre, bien sûr, dans l'Empire romain, il y avait des synagogues un peu partout, mais les Juifs se retrouvaient entre Juifs. Comprenez, il y avait des clivages entre races, entre nations. Jésus leur avait dit aussi, allez par tout le monde. Il leur avait dit, faites des disciples de toutes les nations. Donc, il y a un ordre clair de la part du Seigneur dès l'origine pour que l'Église rende témoignage jusqu'aux extrémités de la terre pour que ce peuple soit mondial, mais un seul peuple. Mais je ferai remarquer une chose, c'est que, bien sûr, il y a eu l'ordre du Seigneur, ce commandement du Seigneur, mais si Jésus n'avait pas provoqué certains événements, l'Église serait restée uniquement à Jérusalem et dans la Judée. Il faut attendre seulement Actes chapitre 8 pour que l'Église commence à se disperser et aller au-delà de la Judée. Et à cause de quoi l'Église a été obligée de le faire ? La persécution. La persécution. Il ne serait jamais allé en Samarie sinon. Jamais. Parfois on dit, mais pourquoi Seigneur agit de telle manière, pourquoi il se passe telle chose. Vous savez, il y a des années en arrière, il y a peut-être une bonne dizaine d'années, le royaume du Maroc a expulsé tous les pasteurs et les missionnaires au Maroc. Vous avez peut-être entendu parler de ça à l'époque. tous les missionnaires français, américains, canadiens, autres, toutes ceux qui œuvraient dans ce pays ont été expulsés du pays. L'action missionnaire des Assemblées de Dieu avait un missionnaire à ce moment-là au Maroc, qui lui-même a dû partir du Maroc. Ça a été compliqué, cette histoire. Mais ce qui s'est passé, déjà, ça n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu au Maroc, puisqu'il y a de belles églises de maison, pour la plupart, au Maroc. Mais ces missionnaires, ces pasteurs au Maroc, en partant du Maroc, expulsés du Maroc, ont œuvré ailleurs, notamment un qui est venu en Tunisie. Il a été expulsé du Maroc, il s'est dit, mais où est-ce que je vais maintenant? Il avait un ami en Tunisie qui lui a ouvert la porte, il dit, viens, tu vois ce que tu peux faire. Et ça a été le début de l'œuvre des Assemblées de Dieu en Tunisie. Vous voyez, ça n'arrête pas, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Que Dieu soit béni, alléluia. Pour que l'Église se répande, il a fallu cet ordre et parfois certains événements pour bousculer l'Église. C'est comme la vision de la nappe que Pierre a eue dans Actes chapitre 10, avec tous ces animaux, tu es mange. Alors Pierre, lui, en bon juif, non, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche, il ne voulait pas. Et le Seigneur était en train de lui apprendre quelque chose. Là. Ce que Dieu le regarde comme pur ne le regarde pas toi comme impur. Dieu était en train de le préparer parce qu'il allait l'envoyer chez Corneille, un non-juif. Or, on le sait, les juifs n'entraient même pas chez les non-juifs, considérés comme impurs. Mais grâce à cette intervention du Seigneur, Pierre va entrer chez Corneille et le salut va rentrer chez cet homme, dans cette famille, dans cette maison. Que Dieu soit béni, alléluia. Alors quand l'Église, malgré l'ordre du Seigneur, ne fait pas ce que le Seigneur attend d'elle, il provoque des événements. Alléluia. Le Seigneur se fait de toutes les nations un peuple. Alléluia. Ça, c'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance pour l'Église. Ça élargit notre façon de voir les choses. Ça élargit notre vision du peuple de Dieu. C'est pas simplement nous qui sommes là, bien sûr, nous qui sommes là, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, mais pas que. Nous sommes le peuple de Dieu répandu dans le monde entier. Alléluia. Comme le dit ce petit chant, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous sommes les uns et les autres, il est vrai, ce peuple du Seigneur, différents les uns des autres. Heureusement d'ailleurs que nous sommes différents. Hein. On s'ennuierait peut-être un peu. Hein. Heureusement qu'on est tous différents, mais nous sommes qu'un seul peuple. Alléluia. Nous sommes qu'un seul peuple, le peuple de Dieu. Que le Seigneur soit béni parce que c'est lui qui tient son Église entre ses mains. On va ensemble remercier notre Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, nous n'étions pas un peuple, mais tu as fait de nous ton peuple. Tu nous as tirés les uns les autres d'où nous étions, de nos pays différents, de nos cultures différentes, de nos histoires différentes. Et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et tu nous donnes cette espérance, Seigneur, cette espérance d'être avec toi, béni sois-tu, Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui agit dans mon cœur est le même que celui qui agit dans le cœur de mes frères et sœurs qui sont là ce matin, de ceux qui nous écoutent et de ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont en toi. Te bénissons, Seigneur, parce que tu as enlevé l'inimitié qui pouvait exister entre nous. Des hommes et des femmes qui se faisaient la guerre, qui ne pouvaient pas se côtoyer, qui ne pouvaient même pas se parler, Tu as enlevé l'inimitié, tu as fait de ton peuple une habitation de Dieu en esprit, le temple de Dieu. Tu as ainsi annoncé la paix à ceux qui étaient près et la paix à ceux qui étaient loin, Seigneur. Et en toi, nous avons le même accès auprès du Père. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que nous savons que de par tout le monde, des hommes et des femmes te louent, te prient, te servent, ont cette espérance. Ils sont différents de nous, mais ils te cherchent de tout leur cœur. Ils t'aiment, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit qui agit, Seigneur. Tu as des chemins différents les uns pour les autres, Seigneur. Mais nous savons que quand même, nous avons le même grand chemin. C'est toi, Jésus-Christ, notre chemin. Nos vies sont différentes, mais c'est toi qui agis, toi seul qui agis dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de ton peuple, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. J'aimerais juste, pour terminer ce culte, relire deux versets que j'ai lus tout à l'heure. Trois versets, excusez-moi. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 19, on va terminer avec cela, en gardant ces choses sur notre cœur, en les méditant. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.